RMC, face aux grandes gueules.
Aujourd'hui dans les GG, Bruno Poncet, cheminot, Antoine Diers, consultant juridique, Laura Barton-Martinez qui est sophrologue, et puis le face au GG avec Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement. Bonjour Madame Thévenot.
Bonjour à tous.
Prisca Thévenot, vous êtes derrière la candidature de Gabriel Attal à l'élection présidentielle. Très mauvaise nouvelle pour vous quand même, cette candidature de Marine Le Pen, parce que quand on voit les intentions de vote, il y a eu plusieurs sondages publiés, c'est la grande favorite de ce scrutin, elle n'a jamais été aussi haute, et elle est même donnée gagnante contre tout le monde, et notamment Gabriel Attal au second tour. Mauvaise nouvelle donc?
Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. La nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui le nom du candidat du Rassemblement National pour la campagne de 2027. C'est acté, c'est fait. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour quelqu'un qui espérait prendre sa place, Jordan Bardella. Pour le reste, nous sommes prêts à affronter le candidat ou la candidate du Rassemblement National, quel qu'elle soit.
C'est une candidate plus redoutable que Jordan Bardella.
Ça, on le verra dans la campagne. Et la campagne, elle ne fait que commencer. Et là, j'espère que sur la campagne, on va pas s'amuser matin, midi et soir à commenter ces déboîtes judiciaires, mais plutôt parler du fond. Qu'est-ce qu'elle fait par rapport au réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'elle fait sur la justice, sur l'Europe, sur les relations internationales? Parce que c'est vrai que Marine Le Pen est dans le paysage politique depuis très longtemps, mais pardon, son seul fait politique pour le moment, c'est d'avoir été devant les tribunaux. Maintenant, on veut savoir ce qu'elle a à dire devant les Français.
Mais on le sait. On sait ce qu'elle représente, Marine Le Pen. Et les gens qui ont envie de voter pour elle...
On sait ce qu'elle représente, mais est-ce qu'on sait ce qu'elle fait? Et c'est là aussi le sujet, parce que maintenant on a l'incarnation, on sait qui sera le candidat, enfin en l'occurrence la candidate RN, mais il y a plein de lignes au sein du Rassemblement National, et on l'a vu au cours des dernières semaines et des derniers mois. Il y a une ligne qui est peut-être un peu plus libérale économique, et puis il y a la ligne qui est très à gauche économiquement. Laquelle va l'emporter par exemple?
Mais face à la puissance aujourd'hui que représente cette candidate, est-ce qu'il n'est pas temps de vous entendre? Est-ce que ce n'est pas finalement ridicule de
vous entendre
de voir,
avec qui
entre Édouard Philippe, Gabriel Attal, peut-être Bruno Retailleau et d'autres, parce qu'il y a plein de candidats. En fait, on a un bloc qui est prêt, là, le bloc Mélenchon, le bloc Le Pen, et chez vous, c'est la foire d'empoigne, c'est la multitude de candidats.
Non, c'est pas la foire d'empoigne. C'est vrai qu'on aimerait tout de suite avoir... trois noms pour faire bien dans les commentaires et bien.
Bien, mais pour être efficace.
Justement, pour être efficace, faut d'abord s'entendre sur le fond, en fait. Sinon, pardon, ça sert à rien d'y aller. Chacun reste chez soi et on laisse.
Différence de fond entre Attal et Édouard Philippe.
Il y en a et c'est heureux. Et justement, la campagne va permettre aussi de dire quelle est. Donner un exemple. Je vous donne un exemple.
Un exemple.
La réforme des retraites. Enfin, je suis pas en train d'inventer un truc. La réforme des retraites. Nous, on se dit, ça y est, les Français en ont assez des réformes paramétriques. Et je sais de quoi je parle. J'ai été sur de nombreux plateaux pour la réforme Borne. Là, l'enjeu, c'est de dire, on change complètement le système des retraites avec une part de capitalisation. Chez Édouard, ils sont plutôt sur une démarche de réforme à 67 ans. Je suis pas en train de faire de la morale, simplement en train de dire quel est le projet qui plaira plus aux Français dans cet échiquier politique. Et il y a plein d'autres sujets comme ça.
Vraiment, ce que je viens d'entendre, c'est marquant. En fait, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes pour la capitalisation et qu'Edouard Philippe, c'est 67 ans. Sauf qu'Edouard Philippe, c'est lui la retraite à capitalisation. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que Macron contre Macron, que vous allez nous faire le deuxième tour, excusez-moi, la réforme de 2019, c'était la capitalisation. Donc vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que vous êtes en train de vous opposer entre vous.
On est en train de nous faire
pendant 10 ans.
Justement,
Madame Prisco.
Prisca, ça sera mieux comme ça.
Thévenot Prisca.
Excusez-moi,
tellement ce qui va vous arriver, c'est que je pense que là,
Brunet Ponceau à côté.
Moi, je suis personne, mais ce que je vois surtout, c'est qu'à mon avis, cherchez pas trop à savoir qui de vous trois, vos candidats, vos quatre candidats, cherchez pas trop, vous serez même pas au deuxième tour. En fait, parce que les gens vont voir ça.
Du coup, on arrête de débattre et puis on laisse tomber.
Allez-y, arrêtez de débattre, arrêtez de surtout de nous.
Comme
on a eu le maire en train de nous expliquer que si elle était ministre des Finances.
Non, mais je pense qu'on peut avoir ce débat. Je pense qu'on est en France et on a le droit d'avoir un débat politique. Vous voulez pas entendre ce que j'ai à dire, c'est un fait et je le respecte.
Mais je vais faire comme ça.
Et je le respecte. Non, mais vous avez le droit de couper la télé.
En 10 ans, vous êtes au pouvoir.
Est-ce que je dis,
ok,
là c'est bon, on a la petite capsule à faire le buzz, il a mis Thévenot à l'amende, c'est génial. Moi je suis pas là, je suis pas là pour ça, ok.
Moi
j'en ai pas rien à foutre.
Moi
j'en ai pas rien à foutre.
Avoir la France au pouvoir.
J'en ai pas rien à foutre, comme vous le dites. Moi je suis là. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais qu'est-ce qu'on fait, Bruno? On s'engueule, on sourit, on fait quoi? On s'écoute.
Moi je vous écoute.
D'accord.
Non mais est-ce que...
Donc ce que je dis, c'est à un moment, il faut aussi accepter d'apprendre de son expérience. La réforme paramétrique aujourd'hui, ça ne marche pas. D'ailleurs, il n'y a pas unanimité politique dessus. Vous le dites très justement, il n'y a pas unanimité des Français dessus. Par contre, il y a un fait, je suis désolé. Il y a un fait, c'est que notre système de retraite aujourd'hui, il est plus financé. On fait quoi? on fait quoi? On s'engueule et on laisse le truc tomber à la ramasse? Ou on essaie de prendre un peu de notre courage, de se dire bah, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, mais on n'a pas le choix. Et on doit commencer à avancer.
À quel moment vous allez acter au sein du Bloc central qu'il faut se mettre autour d'une table et rallier le candidat le mieux placé?
C'est les sondages qui vont trancher.
Les sondages, ça peut être un sujet, il peut y avoir la primaire, tout est ouvert, franchement. Bah, nous, on n'est pas fermé à des modes de désignation du candidat de ce bloc de rassemblement. C'est pour ça qu'on a mis en place un comité de liaison. Et je le dis assez simplement, on a vu plein de tribunes arriver sur il faut le candidat du centre et de la droite, des injonctions, des promesses sur les plateaux télé. Enfin, c'est bien tout ça, mais en gros, il faut aussi mettre en action cette démarche de rassemblement.
Mais vous avez, comme le dit Bruno, compris que s'il y a plusieurs candidats, il y a peu de chances d'être au second tour.
C'est pour ça que Gabriel Attal a mis en place ce comité de liaison. Pour le coup, tout le monde a souhaité y participer. Horizon, donc nous, Renaissance, l'UDI, le Modem, Parti Radical. Et on met en place les conditions pour qu'on puisse avoir cette capacité de rassemblement. Pas tout de suite, parce qu'il faut aussi que les programmes puissent être débattus. Et c'est quand même heureux. On est sur une campagne des présidentielles qui va durer un an. Pour le coup, on l'a pas vécu il y a maintenant 5 ans. Là, on va pouvoir la vivre pleinement. Ben, débattons du fond et puis aussi laissons les colères s'exprimer, parce qu'une campagne aussi c'est ça, c'est aussi ce moment où on se dit ben en fait ça c'était nul, ça a bien marché, ça j'ai pas compris, ça je suis en colère, ça je suis plutôt rassuré, et c'est ça aussi qu'il faut pouvoir entendre.
Antoine Dierz,
je pense qu'on arrive à la fin du macronisme, dont vous avez été un des visages brillants avec votre collègue Maud Bréjon, et vous évoquez Attal, Philippe.
J'évoque Attal, surtout.
J'y vois.
Vous parlez de.
Non, mais j'y vois gauche, droite. Oui. Et votre parcours parallèle à celui de Maud Bréjon, c'est exactement ça. Vous êtes l'aile gauche et l'aile droite du macronisme qui finalement vont exploser. Et donc, c'est le retour du clivage droite-gauche. C'est la fin de cette réussite d'Emmanuel Macron parce qu'il sera plus là. Et donc, vous allez chacun repartir de votre côté, c'est ça?
Ok. La droite est morte avec Nicolas Sarkozy?
Ouais, je pense.
La droite, alors vous êtes en train de dire à M. Retailleau, à M. Wauquiez qu'il faut qu'ils rentrent chez eux.
Je pense qu'ils n'ont aucune chance. En fait, je pense que, comme vous, comme le Bloc
en fait,
central, il n'y a plus de chance.
Je vous écoute.
Le clivage, LFI-RN aujourd'hui.
Oui. Ben, en fait, par rapport à ça, je vous entends. Et je sais, on s'est retrouvés sur d'autres plateaux télé en d'autres temps. Et je sais quelle est votre religion politique. Donc, je n'ai pas de débat.
Pas de religion politique, j'ai des idées politiques.
Oui, c'est une façon de parler. Vous en conviendrez. Comme le petit laïus que vous venez de faire avant, c'est très beau. Mais honnêtement, dans le débat politique dans lequel on est aujourd'hui, ma famille politique, justement, on refuse cette fatalité d'un deuxième tour entre LFI et RN. On la refuse. C'est vrai qu'aujourd'hui, les sondages nous disent qu'on se dirige vers ça. On le regarde avec attention, mais on le refuse. Et c'est pour ça qu'on veut que la campagne puisse commencer sur le fond et qu'on puisse avoir des débats.
Il y a quand même
très précis.
Vous assumez que vous êtes l'aile gauche de la Macronie.
Ça veut dire quoi, l'aile gauche de la Macronie?
C'est ce que ça veut dire.
Je suis libéral économiquement. Est-ce que c'est l'aile gauche de la Macronie?
Vous êtes gauche libérale. La gauche libérale, ce qu'était avant la social-démocratie, en fait, Gabriel Attal vient de la gauche. Est-ce que vous assumez par rapport à Édouard Philippe qui est plus tourné vers la droite et qui l'assume d'ailleurs, qui le dit?
Mais encore une fois, ça veut dire quoi aujourd'hui? Regardez, on parle de la droite et de la gauche. Parlons de la droite et de la gauche. La droite aujourd'hui, c'est quoi? La droite, quand elle arrive à Matignon, elle n'est pas arrivée à Matignon en 1999, elle est arrivée à Matignon en 2024. D'accord? Michel Barnier, c'est pas un affreux gaucho. Le premier acte que ce gouvernement a fait, avec tout le respect que j'ai pour eux, et je les ai pas censurés, au contraire, j'ai validé la stabilité politique, c'est d'augmenter d'une les impôts et de deux d'en créer de nouveaux.
Et vous avez
c'est
parlé la droite, de droitière, un truc comme ça.
Non, mais c'est la droite, ça. Ouais. Bon, voilà.
La droite au pouvoir n'a peut-être pas été suffisamment à droite.
Non, mais c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux bien rentrer dans un débat.
La droite, quand elle est au pouvoir, n'assume pas ce qu'elle est. Et peut-être d'ailleurs aussi la gauche, elle n'assume pas d'être vraiment à gauche.
Alors...
C'est ça qui a brouillé Emmanuel Macron.
Mais le sujet.
Tiré les leçons. Vous pouvez pas dire que la droite et la gauche, ça n'existe pas, bien sûr.
C'est parce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, c'est qu'est-ce qui les différencie aujourd'hui sur le fond? Qu'est-ce qui les identifie aujourd'hui sur le fond? Et de se dire aujourd'hui, est-ce qu'on est de droite?
La droite est contre la GPA. Gabriel Attal défend la légalisation de la GPA.
Alors, pas toute la droite.
Voilà.
La droite.
Écoutez. Non mais vous vous rendez compte, on est en train de rentrer dans un débat philosophique qui est tout à fait intéressant sur est-ce qu'on est de droite, de gauche, etc. pendant qu'on a le réchauffement climatique, pendant qu'on a des sujets de fin de mois, pendant qu'on a la dame qui était au téléphone tout à l'heure qui disait qu'elle s'occupait de sa maman. Eux, ils en ont rien à faire. Eux, ils veulent savoir. Eh ben, sur le changement
climatique, à gauche,
allons-y.
On a tout fait pour freiner la climatisation.
Et à droite, on a fait quoi?
Bah, et à droite, le maire de Cannes, David Cisnard, il climatise les écoles. Voilà, il y a deux, on voit quand même qu'il y a une.
Et à l'extrême droite, Marine Le Pen nous explique qu'il faut plein de clim partout, mais qu'ils veulent jamais les budgets. Enfin, je veux dire, un moment. Enfin, je veux dire, ça agace, en fait. Moi, je veux bien qu'on soit. Bah, non, ça agace et ça fatigue. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir parler des sujets de fond. Ensuite, les uns et les autres nous classent comme ils le veulent.
Prenons un sujet de fond, puisque c'est la canicule. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas suffisamment climatisé les hôpitaux? Et aujourd'hui, Sébastien Lecornu est obligé, en catastrophe, de commenter des climatiseurs. Alors, heureusement pour lui, il y a une troisième canicule. Donc,
Non. Il y a un sujet que vous dites qui est très très juste, c'est plutôt que de gérer les crises, il faut les anticiper.
Ah oui.
Et donc sur le sujet, quand on était pour le coup aux affaires, quand Gabriel était aux affaires, sur le sujet des écoles, il a mis en place une grande démarche pour permettre de refroidir les écoles et les adapter. Ouais. Bon, après il s'est passé un truc, c'est la disso. On va pas revenir dessus 20 fois, c'est fait, c'est acté. La dissolution. L'enjeu que nous avons.
Est trop jeune.
Ouais, je suis trop jeune. À 40 ans, on est encore jeune.
Elle est déso, c'est la disso.
C'est le nouveau mise.
Non, mais je vais le dire. C'est Thévenot. Enfin, bref, c'est Crispo. Non, mais j'essaie de faire sourire mon voisin face qui veut plus parler.
Il est Crispo.
Non, mais le sujet, on va pas y revenir 20 fois, mais c'est un sujet important. Quand on se dit de façon très simple, c'est le sujet du réchauffement climatique. Il y a effectivement des hivers très rugueux, on l'a vu l'hiver dernier, et des étés beaucoup plus précoces avec des épisodes de canicule que nous vivons à répétition et qui vont malheureusement pas aller en s'améliorant. Sur ça, c'est un plan très simple, c'est climatisation et simplification. La climatisation, pas simplement pour des effets d'annonce et commander des clims, c'est aussi prévoir un système d'énergie viable et en cohérence avec notre empreinte carbone. Ça s'appelle la géoénergie. La géoénergie, ça permet de pouvoir refroidir en été et réchauffer en hiver tout en visant toujours la baisse des effets de CO2 et la baisse de la facture des Français pour l'énergie, parce qu'il ne faut pas oublier aussi cet enjeu-là. Et c'est ce que nous proposons. Et ensuite, en parallèle de ça, c'est simplifier les normes administratives. Vous l'avez vu, je pense que vous avez parlé sur vos émissions, qui empêchent, par exemple, certaines copropriétés de s'adapter face aux situations.
Pourquoi vous
ne
l'avez pas suffisamment fait, ça, de simplifier? C'est une des promesses du macronisme, ouais. La simplification.
Simplifier, on a commencé à le faire et on n'a pas fini, vous avez raison.
On bute à chaque fois.
Mais vous avez raison.
La situation est toujours plus forte.
On avait essayé de le faire et on l'a fait notamment sur un certain nombre de pans sur le volet agricole. Souvenez-vous, pendant la crise agricole qui avait commencé en janvier 2024, on a simplifié, on a dénormé, c'est ce qu'on disait à l'époque, un certain nombre de choses qui étaient complètement incohérentes sur la gestion de l'eau, sur la gestion des zones humides, etc. Il y a une grande loi simplification qui arrive aussi dans la foulée. Mais là, il y a eu un problème de portage aussi politique où cette loi a complètement été dénaturée avec les gouvernements qui se sont suivis. Et dont la ligne n'était pas la même après la dissolution.
Mais pourquoi vous assumez pas plus clairement que le bilan est raté? Vous avez un avenir politique devant vous. Vous continuez à défendre la Macronie et en même temps là, vous êtes pas hyper à l'aise parce que
je suis à l'aise.
Grand chose qui.
Moi, je suis à l'aise. Je suis pas devenue chroniqueuse au GG. Je continue à m'engager en politique.
Moi, j'ai arrêté.
Non. L'année prochaine.
Je
voudrais pas être.
J'étais dans le privé avant. Je retournais dans le privé après.
Je voudrais vraiment pas être à votre place parce qu'aujourd'hui,
vous n'êtes pas.
Si je suis content d'avoir arrêté la politique, c'est parce que je détestais devoir me trouver comme vous là à défendre des trucs.
Mais je défends pas des trucs, je défends mon pays et je propose des solutions.
Mais alors, essayez, pourquoi vous ne faites pas la rupture dans le macronisme? Il n'y a personne qui est en mesure de dire que non, ça n'a pas été bon, mais au centre, on va avoir de nouvelles propositions. Vous répétez les mêmes trucs.
Est-ce que vous êtes prêt à faire un devoir d'inventaire?
Un bilan critique.
Mais regarde, on a le droit de critiquer, d'ailleurs, j'y réponds là aux critiques. J'y réponds.
Bien fait là pendant ces 10 ans. Qu'est-ce que vous regrettez?
C'est quand même génial. Enfin, c'est pas à la hauteur, je pense. Il y a plein de choses sur lesquelles, sur la capacité de revoir un certain nombre de fonctionnements dans notre système tel qu'il fonctionne. Le système politique, le système judiciaire, on l'a vu malheureusement récemment. Mmh. Et puis cette capacité à lutter contre le palpe-vague et l'immobilisme. Sur ça, oui. Sur la façon dont on gère aujourd'hui le pouvoir en France et la politique en France, oui, on doit aller plus loin et on doit complètement réformer. C'est ce qu'on propose d'ailleurs. Maintenant, sur d'autres sujets, la lutte contre le chômage, la réindustrialisation, la capacité de toujours regarder vers l'Europe parce que c'est comme ça que ça assurera aussi une puissance, on l'a fait.
Laura Barton, Martinez.
Oui, moi j'ai écouté un petit peu ce que disait M. Attal et en fait j'ai l'impression que ce qui est dit c'est beau, c'est joli, la syntaxe est parfaite, mais dans le fond on n'y va pas. Je me souviens de c'est plus de 100 millions d'économies, etc. Oui, mais dans quoi? Et j'ai pas...
Micro.
Je, Et j'ai pas, en fait, je m'attendais avec un candidat aussi jeune d'avoir des idées qui changent, mais de réelles idées qui changent. Là, hormis, je veux dire, vous allez pas au bout avec la retraite.
Il est sur TikTok.
Par principe, avec un petit peu de capitalisation. Non, il faut une retraite avec de la capitalisation. Maintenant, il faut le dire que même un smicard, eh ben, il gagnerait deux fois plus d'argent s'il avait sa retraite par capitalisation. Il faut dire les choses correctement. Et en fait, c'est ce qui manque. Et je pensais, de quoi?
Les smicards, ils veulent pas capitaliser.
Mais en fait, il faut.
Tu fais comment pour capitaliser quand avec tes 1400 balles, t'arrives pas à finir la fin du mois?
Et parce que l'argent que moi je te prends pour le placer si bien qu'on a un système de retraite qui est en train de s'écrouler, bah, cet argent-là, tu le prends, tu le capitalises comme tu veux.
Chez BlackRock?
Mais t'en as plein. Faut pas être complètement fermé. On a un truc qui est en train de mourir.
Français.
Mais voilà. Mais regarde, là,
moi,
on a
la réforme des retraites de 2019 qui était pas.
Non, mais regarde, on a des entreprises.
En tout le monde, hein.
On a des entreprises monstrueuses qui sont françaises, qui sont détenues par des retraités américains et qui n'appartiennent plus aux Français.
Un fonds de capitalisation.
Mais complètement.
Français.
Mais
ouais, c'est un fonds souverain.
Mais un peu. Là, je suis même pas en train de débattre de mon.
Ça, vous êtes d'accord.
Je suis même pas en train de débattre
plus loin.
De mon idée, c'est là, il faut y aller.
Il faut une rupture.
Là, ça fait 60 ans qu'on a les mêmes ingrédients pour faire la même recette. Et ben la recette. On veut plus la bouffer.
Est-ce que Gabriel Attal, c'est l'homme de la rupture?
C'est l'homme de la rupture sur le système et la façon dont on voit aujourd'hui le système politique, judiciaire, institutionnel qui, pardon, est à bout de souffle.
Donc les solutions,
et c'est pas,
les solutions claires, un truc précis qu'on veut entendre.
Je vous donne un exemple.
Voilà.
Un exemple, là je vous parlais de notre capacité à réformer complètement le système et pas le changer et mettre des rustines, mais un exemple très concret dont on parle pas et pourtant qui fait partie de notre vie et qui va être un sujet des générations à venir. C'est l'IA. L'IA, je suis désolée, c'est le seul candidat à en parler aujourd'hui. Alors que, pardon, hein, quand vous en parlez, c'est en général, ça fait plutôt un peu peur. Et c'est normal, parce qu'on se dit, c'est quoi? Ça va remplacer des jeux. Ben, l'IA, déjà, pour être une nation souveraine par rapport à cette révolution qui arrive, parce qu'on peut dire toute la journée, la révolution de l'intelligence artificielle, on veut pas, mais si on la prend pas, elle se fera sans nous et surtout contre nous. Vous parliez des salaires. L'IA permet justement d'améliorer les gains de productivité, permet justement de dégager des marges financières supérieures et supplémentaires, aussi bien pour financer notre système que pour mieux payer les Françaises et les Français. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu aux États-Unis. Leur salaire moyen, eux, a augmenté quand le nôtre n'a pas pu augmenter correctement à cause de ce genre de sujet.
J'entends pas comment vous allez le faire.
Eh ben, comment on va le faire? En prenant le sujet que vous veniez de dire avant, le système de retraite avec une part de capitalisation pour mettre en place un fonds souverain. Et donc, c'est ça aussi aujourd'hui. C'est remettre un système en place qui est vertueux, qui fonctionne et pas en permanence faire des réformes de rustine.
Merci Prisca Thévenot. Désolé, c'est terminé maintenant.
Prisca, désolé, Thévenot.
C'est bon, c'est
dit.
On se retrouvera pendant la campagne électorale.
Avec plaisir.
Le tempo accélère à partir du mois de septembre, de toutes les manières.
Tout à fait. Mais on sera sur le terrain tout l'été.
Sauf s'il y a une Dissot.
Non, mais pas avant, non? Vous avez des infos?
Ah ben,